Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Marc avec le frère Dominique Collin. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux pour mener avec frère Dominique Collin la suite d'une lecture cursive de l'Évangile de Marc. Sixième émission aujourd'hui, et vous savez que nous souhaitons que vous puissiez trouver une correspondance entre ce que vous vivez et ce que vous lisez et entendez de la trace de cet homme, Jésus. Nous sommes, frère Dominique, d'abord, bonjour frère
Bonjour,
Dominique.
Bonjour Pierre-Paul.
Nous sommes à la fin du premier chapitre, et là, nous avons vu Jésus en action. Cela continue par deux petits textes que je vais lire. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades, souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent. Ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Et il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Frère Dominique, c'est un peu tout un programme ici que Jésus nous expose.
On peut tout à fait qualifier, donc, en tout cas, le premier récit d'un sommaire. Marc en fait quelques-uns, qui a l'air de récapituler à la fois une journée, qui est la première journée, puisque c'est le soir venu d'une journée où il y a eu la guérison donc, de la belle-mère, un jour de sabbat, et qui a commencé par cet enseignement nouveau, avec autorité, et l'expulsion du démon. Donc on a, si vous voulez, campé là une sorte de journée type, qui montre que Jésus donc, enseigne, c'est la parole efficace, qui se traduit aussi par des gestes, qui relèvent les uns et les autres, soit de leur maladie, je vais dire du corps, mais le monde biblique ne connaît pas une sorte de distinction, en tout cas de séparation des deux dimensions qui constituent l'unité et la globalité vécue d'un être humain. Sa chair, c'est aussi le lieu de son esprit, et il n'y a pas à distinguer. Donc la belle-mère de Simon qui vivote, l'homme en esprit impur, qui est dans l'autodestruction, dans une violence qui se retourne contre lui, ce sont donc deux cas qui vont être en plus ramassés par ces versets où on nous dit que Jésus guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes. Et il chassa de nombreux démons. Les deux types d'activités thérapeutiques de Jésus sont bien mentionnés. Il y a à la fois chasser le démoniaque, chasser l'esprit impur, et guérir, mais je vais revenir sur ce verbe, des gens qui souffrent de maladies. Guérir donc, traduction donc de la top, traduction habituelle en français, qui rend ou essaye de rendre le verbe grec thérapeo, qui a donné en français, vous l'entendez immédiatement, le mot thérapie, thérapeute, thérapeutique, bien sûr. Alors, quand on traduit immédiatement par guérir, sans dire le faux, on force peut-être un peu le trait, parce que le verbe thérapeo veut d'abord dire prendre soin. Alors, on peut imaginer que la guérison vient d'un soin qui a été manifesté, accordé, qui a été l'objet donc d'un acte médical ou d'un geste. Mais il faut d'abord reconnaître que le verbe thérapeo ne signifie pas d'emblée aller vers la guérison. Enfin, si, ça va vers la guérison, mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'on aboutit à la guérison. Je dis ça pour qu'on enlève à nouveau une considération miraculeuse, comme si Jésus guérissait à tour de main. Il prend soin, Et ce verbe thérapeo est un verbe qui est toujours un verbe d'actualité pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire la parole qui change, la parole qui prend soin, le geste qui accorde à la fois tendresse et bienveillance, qui relève. Tout ça, ce sont des activités qui, encore aujourd'hui, nous concernent au plus haut point. Quoi qu'il en soit, donc on voit que Jésus, c'est surtout comme thérapeute qu'il est reconnu, et tellement reconnu que l'on vient à lui, nous dit Marc, tellement que la ville entière était rassemblée à la porte. Et retenez bien ce verset, parce que nous verrons que littéralement, au début du chapitre 2, de fait, tout le monde va s'assembler dans une maison et qu'il y a un effet d'affluence et de masse. Alors, devant cet effet d'affluence, eh bien, nous avons déjà le début d'une ambiguïté possible que Marc va relater petit à petit, avec le désir de Jésus de prendre soin et donc de montrer que le royaume est agissant, que la parole est efficace, avec l'ambiguïté de la volonté qu'ont les gens d'avoir pour eux un thaumaturge, c'est-à-dire un sauveur à disposition. Une sorte, si vous me permettez d'expression, de robinet à miracle, où Jésus tiendrait un étal de guérison en tout genre et où il suffirait de venir apporter ses malades pour qu'ils aillent bien.
Naïvement, on peut penser qu'ils auraient souhaité une potion magique, en quelque sorte.
C'est tout à fait ça.
C'est très naïf.
Mais c'est naïf, mais ça dit bien.
C'est en même temps très
ça humain. Dit bien donc ce qui est au fond de, j'allais dire, de nos développements personnels et psychiques, et qui, depuis l'enfance, bon, l'enfant a une satisfaction, je rappelle, dans le sein de sa mère, et juste après, il va chercher une satisfaction immédiate de ses besoins. C'est la fonction du sein de la mère. Une psychanalyste célèbre, Mélanie Klein, a bien montré ça dans la mère, et même par le nourrisson, elle est même imagée comme un sein. C'est comme si la mère était réduite, si vous voulez, à un sein. Et dès que l'enfant a faim, il tète le sein et il a une réponse, un stimuli qui vient immédiatement donc contenter son appétit et son besoin. Et nous chercherons pendant toute notre vie, même à l'état adulte, des satisfactions et des compensations immédiates de pulsions, de demandes, où nous cherchons à être contentés immédiatement. Mais le problème, c'est que si l'on peut être contenté, par exemple, d'un besoin de nourriture, il suffit de manger si l'on veut, encore que l'humain a inventé une mise à distance aussi de la nourriture. Ça s'appelle un repas, ça s'appelle la convivialité, ça s'appelle cuisiner, etc. Donc, si on a remis de la distance, c'est pour remettre du désir et pour ne pas être simplement donc des êtres qui sont mus uniquement par des addictions à des pulsions de contentement de besoin, parce que on est plus libre quand je suis uniquement dans la volonté de contentement. Ce n'est pas moi qui suis libre de mes besoins, c'est mes besoins qui me dominent et je suis donc rendu dépendant de mes besoins.
D'ailleurs, grandir, c'est souvent pouvoir retarder justement la satisfaction d'un certain nombre de besoins.
C'est exactement ça qui manifeste qu'on entre, en tout cas petit à petit, dans l'âge adulte.
Oui, oui.
Mais si vous voulez, donc les gens qui s'assemblent là sont comme des enfants. Ils veulent une satisfaction immédiate de tout ce qui vient troubler leur besoin, qui est un besoin tout à fait légitime. De quoi ? De bien-être, de confort, de sécurité, c'est-à-dire de santé du corps. C'est quand même le premier lieu où nous cherchons une sécurité. Je rappelle que nos vœux adressés lors des premiers jours de l'année civile sont des vœux de santé, de bonne santé, et on va même ajouter « c'est ça qui compte ». Et imaginez donc que quelqu'un, non seulement vous la souhaiterez cette santé, mais vous l'accorderez immédiatement, eh bien c'est ce que Jésus, non pas, veut faire. Et le signe qu'il ne veut pas entrer dans ce jeu-là, c'est qu'il se retire. Mais les gens...
Il échappe.
Ils veulent ça,
oui.
Mais
oui.
Jésus échappe.
Il échappe.
Et il va, et on va le voir, il va échapper à partir donc de ce passage. Nous allons voir beaucoup d'échappatoires, et plus peut-être que ce qu'on s'imagine aisément, parce qu'il y a une image assez naïve de Jésus dans nos esprits souvent, qui, parce qu'évidemment il est charitable au plus haut point, doit être tout le temps à la disposition des gens qui souffrent. Et vraiment avec cette idée, presque un Jésus qui, du matin jusqu'au soir, se tient à disposition, presque d'un service sacrificiel, pour contenter toutes les demandes et pour donc offrir toutes les satisfactions. Eh bien, Jésus ne fait pas ça dans l'évangile de Marc. D'autant plus que quand on devient l'objet même d'une attention aussi importante de la foule, eh bien, on devient aussi petit à petit à la merci de son succès, ou en tout cas, Jésus sent qu'il y a là, on y reviendra, on en a déjà esquissé le mot, une tentation de puissance, et Jésus se retire, donc il prend le large.
Il y a une scène intéressante dans un film, je pense que c'est d'Antonioni, où on voit Jésus qui, littéralement, à un moment donné, est submergé par toute une série de malheureux, de pauvres, de malades, et il disparaît littéralement en dessous de toutes ses mains. Et donc là, Jésus, il échappe, et au matin, à la nuit noire, il sortit et il priait.
Parce que son échappatoire est une échappatoire qui n'est pas une fausse échappatoire, qui est simplement d'aller voir ailleurs. C'est échapper en retrouvant la verticale, c'est-à-dire que quand l'horizontale, de fait, submerge dans ses attentes et ses désirs, qui sont tous donc des attentes et des désirs ambigus, eh bien, il faut retrouver la vérité de ce que l'on est, et on retrouve la vérité de ce que l'on est en retrouvant la vérité de son origine, c'est-à-dire de la parole qui m'est donnée et qui s'adresse à moi. Et donc, cette vérité de la parole donnée, eh bien, c'est dans la prière qu'elle s'entend, parce que c'est là qu'on retrouve le lien, et que Jésus retrouve son lien vital avec le Père. Et c'est en réassumant, en renforçant sa filialité, que Jésus va redevenir à nouveau, j'allais dire, solidaire des autres. Mais c'est sa filialité qu'il doit nourrir. C'est là qu'il trouve sa vérité. Ce n'est pas en étant l'objet, j'allais dire, de désir des gens. C'est en étant le sujet d'un désir du Père que Jésus trouve sa vérité profonde, sa joie, sa liberté et le sens de sa mission.
On peut penser que ici c'est bel et bien un retour vers les grandes paroles du baptême.
C'est tout à fait ça, oui. Pierre-Paul. Donc en fait, Marc nous montre que Jésus, ces cieux qui se sont déchirés, ce n'est pas une fois, ce n'est pas un moment historique, datable si l'on veut. Ça ne fait pas l'objet d'une dépêche journalistique. Les cieux déchirés avec la parole qui dit, la voix qui dit « Tu es mon fils bien-aimé », c'est la relation, si vous voulez, ordinaire du Père à Jésus. Et Jésus va retrouver, alors là, à certains moments, mis par écrit par Marc, Jésus retrouve ce qui fait la constante même de sa relation au Père. Mais de temps en temps, si vous voulez, on va s'y renourrir, on s'y ressource et on s'y retrouve. Jésus a besoin de se retrouver, de se ressourcer pour alors, quand Simon, puisqu'il n'est pas encore Pierre, quand Simon vient le trouver. Mais Simon, on va voir ce personnage tout à fait extraordinaire, extraordinaire parce que il est de tous les disciples celui qu'on met à l'avant-plan, il est peut-être de tous les disciples celui qui comprend le plus mal qui est Jésus et le sens de sa mission. C'est aussi, à certains égards, celui qui ressemble plus aux croyants que nous essayons d'être, et ça va pas, parfois ça va pas nous plaire de savoir que c'est Pierre qui nous représente, mais il nous représente, et Marc joue avec Simon, et Simon a l'air d'être une sorte d'impressario de Jésus, et c'est exactement ça qu'il faut comprendre, c'est que ses premiers disciples, ils voient que leur maître, donc ils ont misé sur le, et vous me permettrez de dire cette expression, ils ont misé sur le bon cheval. Voilà, Jésus a un succès de foule considérable. On joue à quoi ? Ben on joue à l'impresario. On va assurer la logistique, la pré-vente, on va assurer la publicité. Ouais, il faut presque le dire comme ça. Ça a l'air peut-être, comme commentaire d'un évangile, ça paraît peut-être être des propos anecdotiques ou même qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais je crois que c'est tout à fait ça qu'il faut comprendre. Donc Simon essaye de reconnecter son artiste avec son public. Imaginez un artiste dit « Moi, je ne veux plus te donner de concert ». Mais c'est exactement ça que Simon craint. Et si vous voulez des preuves de ce que j'avance, c'est que nous, on va encore en trouver des signes bien plus loin encore dans l'évangile de Marc.
Et c'est justement ça. Pierre est tellement touchant, finalement. Et donc,
il est touchant.
Il est touchant. Jésus est brusque. Hein,
mais Jésus sera très souvent brusque avec Simon, puisque donc Simon offre, si on veut, une sorte de miroir de la tentation de puissance à laquelle Jésus ne succombe pas, il ne succombe pas à cette tentation de puissance parce que c'est une tentation, c'est-à-dire que c'est une vraie tentation, même pour Jésus. Simon est le porte-parole, j'allais dire, de ce désir qui pourrait être un désir dévoyé quand, au lieu de retrouver ma vérité dans ma filialité, je la trouve dans ce que visiblement les gens confirme, même dans l'illusion, quant à ma vérité. Quand on a du succès, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas nécessairement parce qu'on est bon ou ajusté ou sage. C'est tout simplement que les gens ont projeté en vous des réponses immédiates à des besoins qui sont les leurs. Mais ça ne dit rien de votre vérité. Les gens croient que le succès donne du bonheur, mais il est plus difficile à vivre le succès parce que le succès peut être une entreprise complète d'illusions et qui est d'autant plus difficile à contenir pour soi qu'elle est donnée par un plus grand nombre de personnes. Si tout le monde dit que vous êtes, ce que vous faites est extraordinaire et que tout le monde a besoin de vous, on est vite convaincu que c'est bien ça, puisqu'on l'entend. Eh bien, Jésus doit retrouver donc la seule parole qui dit qui il est, c'est la parole qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon plaisir, en toi ». Et c'est un « je » qui peut le dire à un « tu ». Et ça suffit amplement. La vérité de la vie de Jésus, elle est dans cette parole. Comme elle est pour nous, exactement de la même manière, la seule vérité qui compte pour que Pierre, Paul ou Dominique soient ce qu'ils sont, c'est d'entendre la parole du Père qui dit de manière singulière, à chaque unique en son genre, tu es mon fils bien-aimé.
Et c'est intéressant aussi, peut-être que nous, en nous penchant sur notre vie, nous retrouvions cette parole de filialité, cette parole fondatrice, par nos parents, par un enseignant, par une rencontre, un ami. Et il y a ces paroles qui sont des trésors. Et par ailleurs, ce qui m'intéresse dans votre commentaire, c'est que Jésus a bel et bien vécu toutes nos tentations, il a bien vécu toute notre humanité.
C'est le génie, je crois, de Marc, de faire un évangile qui est l'évangile du royaume, c'est-à-dire qui est l'évangile de la mentalité du royaume, c'est-à-dire quelque chose dans laquelle nous entrons encore difficilement. Mais ce n'est pas en nous proposant, si l'on veut, déjà un monde irréel, un monde merveilleux, c'est en montrant que ce passage se fait au sein même de la condition humaine, dans toute son épaisseur, et que ce Jésus n'est jamais, dans l'évangile de Marc, quelqu'un qui plane à un ou deux mètres de la condition humaine. On peut avoir cette impression dans l'évangile de Jean. Or, faudrait-il préciser, nuancer et je pense même corriger cette impression. On peut l'avoir parfois dans les représentations évidemment artistiques de Jésus. On peut l'avoir dans les films. Pensons donc au cycle de Jésus-Nazareth, enfin aux trois parties de Jésus-Nazareth de Franco Zeffirelli. On a un personnage qui semble plutôt sorti immédiatement du ciel et qui, à certains égards, dans son comportement, son attitude, semble toujours, avec un aura, émaner d'un monde divin et donc de ne pas être tout à fait parmi nous, ou s'il est parmi nous, de ne pas être tout à fait comme nous. Et c'est probablement une vision que beaucoup de croyants et d'incroyants d'un Jésus qui finalement, à force d'avoir été retiré de sa condition humaine, comme je dis toujours, l'hérésie la plus tentante et la plus facile n'est pas de ne pas croire que Jésus est Dieu, c'est très facile finalement de croire que Jésus est divin. On se fait des dieux, l'homme se fait des dieux tout le temps, de croire que Jésus était humain, est humain. Ça, c'est la plus difficile des affirmations de foi. À tout le moins parce que ça nous oblige déjà à nous demander si nous croyons bien en notre propre humanité, enfin si en nous, nous acquiesçons chacun pour soi à son humanité. Et je crois que c'est aussi un long et parfois difficile travail pour chacun de, je vais redire cette phrase que j'aime beaucoup, « deviens comme Dieu, deviens humain ».
C'est ça, c'est à la fois être et accepter de devenir. C'est ce paradoxe-là, on est de nouveau au centre de la condition humaine, décidément. Je pense que nous pouvons faire une pause musicale. Et cette fois-ci, c'est Ernest Bloch, violoncelle solo. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Marc, en compagnie de Dominique Collin et Pierre-Paul Delvaux. nous arrivons au terme du premier chapitre et nous allons au moins entrer dans cette dernière scène où on voit Jésus agir. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts. Et l'on venait à lui de toutes parts. Ceci est la conclusion du chapitre 1, frère Dominique.
Avec donc un deuxième récit qu'on pourrait donc qualifier de guérison, encore qu'il faut donc le lire correctement et se rendre compte que ce passage ne parle pas d'une guérison, mais d'une purification. Et ça a son importance. Ça nous apprend aussi que, assez vite, quand on lit un évangile comme celui de Marc à première lecture, on va classer tous les récits dits de miracles ou de guérison dans le même sous-ensemble. Et ça nous dispose souvent de lire attentivement chaque récit pris pour lui-même et en lui-même, ce qui est très très important de faire. Parce que d'abord, ça ne concerne pas les mêmes personnes et il ne se passe pas tout à fait les mêmes choses. Nous avons une petite séquence entre guillemets dans notre tête qui veut qu'il y ait des gens qui souffrent, ils sont malades, ils viennent à Jésus, Jésus soit impose la main, soit dit quelque chose et puis ils repartent guéris. Mais ça, c'est un peu rapide et à la limite, chaque récit dit à sa manière et en accentuant certains éléments ou certaines figures ou certains signes comment une relation, une rencontre, entre guillemets, entre Jésus et quelqu'un qui souffre va permettre à cette personne d'accéder à nouveau à une santé, à une nouvelle santé. Alors ici, nous avons donc un lépreux. Un lépreux, ce n'est pas un malade, entre guillemets, comme les autres, même si on peut dire qu'aujourd'hui, il souffre d'une affection de la peau, qui est une maladie. À l'époque où on ne sait rien donc de la lèpre, on n'a pas de connaissances médicales, c'est pris comme quelque chose qui est une tache et qui révèle plus que pour toutes les autres maladies, ce qui est l'explication causale la plus souvent amenée, c'est que la maladie est soit le fait d'un esprit impur, soit d'un péché que soi-même ou que ses parents ou des générations précédentes ont occasionné. Et ça rend évidemment ce genre de maladie qui est donc marqué du sceau de l'impureté et la lèpre en plus qui est horrible à voir, c'est-à-dire qui déjà provoque un effet de distance, eh bien est accentué parce que l'homme lépreux est considéré comme un personnage impur et doit être mis à distance et il pour lui-même, et lui-même ne peut pas s'approcher des autres vivants, de sorte que ces lépreux étaient parqués. Et ici, nous avons donc déjà une sorte de sortie incongrue d'un lépreux qui s'approche dangereusement, je vais dire, donc de quelqu'un qui ne l'est pas, Jésus en l'occurrence. Alors, ce texte est aussi remarquable parce qu'il pose des graves questions au traducteur et à l'interprète parce que, déjà, pour ce qui est clair, c'est que les manuscrits, l'immense majorité pardon, des manuscrits concordent pour dire qu'au verset 43, nous avons l'expression d'une irritation et d'une colère de Jésus. Ce qui, pour le lecteur encore d'aujourd'hui, pose des questions. Un, parce que nous avons extirpé, hein, rappelez-vous ce qu'on disait juste avant, nous avons extirpé de Jésus finalement tous les traits d'une condition humaine qui est la nôtre. Ou la colère à sa place, ou en tout cas l'irritation, c'est-à-dire ce qui dérange. Or, ici, on a un Jésus irrité et dérangé devant un lépreux. Donc, comment accorder ça avec le bon Jésus, le petit Jésus naïf de nos images Saint-Sulpiciennes. Donc, il y a une irritation dans le texte. Mais le pire, c'est qu'il y a même deux traces d'irritation, parce qu'au verset 41, la taupe me met pris de pitié. Très bien, mais il y a beaucoup de manuscrits qui ne mettent pas la pitié ou la compassion à cet endroit, mais déjà l'irritation. Hein, vous l'aurez dans les notes de la taupe, hein, vous verrez, selon d'autres témoins irrités. Mais ce n'est pas un ou deux témoins, c'est un certain nombre important. Donc, dans les traditions de manuscrits, c'est-à-dire qu'on recopiait les textes, eh bien, on a mis irrité. Alors, je vais terminer par là, juste pour vous dire que quand on a une difficulté comme ça dans un texte, c'est qu'il faut toujours prendre la lecture qui dérange encore aujourd'hui le lecteur, parce que c'est ce qui s'appelle la lectio difficilior. C'est que si on a mis que Jésus était irrité, ça veut dire que c'est probablement ça qu'il faut lire, et ça veut donc dire que quand des copistes ont dit « non, c'est un peu trop fort de mettre qu'il était irrité, on va changer, on va mettre pris de pitié », c'est cette lecture-là qu'il ne faudrait pas retenir. De sorte que, pour faire bref, nous avons donc un récit qui commence avec une rencontre qui doublement irrite Jésus de Nazareth. Alors voilà de quoi aussi nous mettre en branle dans notre volonté, notre désir de bien comprendre ce qui se passe et de découvrir que ça touche là encore des réactions qui nous invitent nous aussi à nous approprier peut-être autrement les textes bibliques.
Merci pour cette conclusion. Nous allons en rester là et ça donne à penser à nos auditeurs. Nous continuerons notre entretien dans l'émission suivante.
Merci.
Merci.
À bientôt.
Frère Dominique, au revoir.
Thank you.